jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer? Comment la science infuse?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver autour de notre table ronde mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique venus avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner, amis auditeurs qui êtes loin d'ici. Nous sommes en direct avec Caroline Tourbe de Science et Vie. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Carole Châtelain de Science et Avenir. Bonjour Carole.
Bonjour.
Philippe Pajot de La Recherche. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour à tous.
Et Philippe Hénaréchaus de Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Ensemble, nous allons nous interroger sur l'énigmatique matière noire, la grande absente de l'univers, tenter de piéger les non moins mystérieux et insaisissables neutrinos, partir explorer l'enfer de Mercure et revenir sur Terre avec une embarrassante question. La science peut-elle se passer du mot « race » supprimé dans la Constitution française? De quoi nous interroger autour de la question « comment la science infuse et se diffuse ?» Bienvenue. Commençons cette semaine d'attribution des prix Nobel par un arrêt sur laser, avec l'attribution du prix Nobel de physique à trois pionniers de la physique des lasers, l'américain Arthur Ashkin, le français Gérard Mourou et la canadienne Donna Stickland, un français et une femme récompensés pour avoir inventé les techniques révolutionnaires d'amplification des lasers qui ont donné de nombreuses applications. Ça vous inspire quoi, Philippe Pajot?
Alors je suis très content effectivement qu'un français ait le prix Nobel, et puis il faut dire qu'il y a une tradition de prix Nobel sur les lasers en France, hein, puisqu'il y a eu Kastler, il y a eu Cohen-Tanouji à Roche en 2012, hein, qui étaient sur des aspects beaucoup plus théoriques. Là, c'est des aspects un peu plus appliqués, en tout cas qui ont plus d'applications directes, notamment des applications pour la physique des plasmas, hein, et également pour la chirurgie de la cornée. Enfin, toutes ces lasers de puissance, en fait, ont énormément d'applications. Et Gérard Mourou aimerait bien faire, enfin, ça fait assez longtemps qu'il a quelque chose qu'il aimerait bien faire, c'est faire apparaître, matérialiser le vide.
Parce que le vide, matérialiser le vide.
Le vide, c'est pas rien, il y a quelque chose, il y a des particules virtuelles, et une des ambitions que poursuit Gérard Mourou depuis quelques années, c'est effectivement de faire apparaître ces particules virtuelles grâce à ces lasers de puissance.
Donc, grâce à ces lasers les plus intenses, hein, les plus puissants qu'on ait jamais réalisés. Et puis il y a une femme nobelisée, alors ça, faut en parler, hein, Carole Jardin, puis il n'y en a pas beaucoup, hein, des femmes nobelisées.
Non, et puis il semble qu'un vent de folie souffle sur les Nobel, puisqu'aujourd'hui, le prix Nobel de chimie a également été accordé à une femme, mais bon, ça reste extrêmement minoritaire. C'est ce qui avait été théorisé sous le nom de l'effet Mathilda, c'est-à-dire que les femmes passent généralement pour des collaboratrices, et notamment une anecdote, c'est que la nouvelle prix Nobel donc de physique, Donna Strickland, a reconnu qu'elle avait employé le masculin dans sa thèse pour parler d'une précédente femme qui avait eu le prix Nobel de physique en 1963. Elle s'est excusée, elle ne savait pas que c'était une femme. Voilà, donc pour vous dire
qu'il n'y a pas eu beaucoup, il y a eu deux femmes au palmarès, maintenant il y en a une troisième et une quatrième.
En tout, il y a 5% de femmes qui, depuis 117 ans, si je ne me trompe pas, qui ont eu le Nobel. Bon, autrement dit, on est loin du compte encore.
Alors ça, c'est pour les prix Nobel. Il y a aussi les prix IG Nobel ou Ignoble Nobel qui récompensent chaque année les recherches les plus improbables, celles qui font rire d'abord et réfléchir ensuite. Parmi les lauréats cette année, il y a les auteurs d'une étude sur l'apport calorique du cannibalisme. Bon, c'est pas très intéressant, vaut mieux un régime varié. Mais aussi l'utilité des montagnes russes pour évacuer des calculs rénaux. Alors apparemment ça roule, ça marche. Il y a aussi l'efficacité des poupées vaudou pour se venger de son patron tyrannique. Caroline Tourbe, parmi tous ces IG Nobel, lequel est votre préféré, ces ignobles Nobel?
Oui, il y en a une des études récompensées que vous n'avez pas citées, que j'ai trouvée particulièrement pertinente. C'est celle qui a été menée par des primatologues qui sont intéressés au comportement de singes dans des zoos. Et ils ont conclu que ces singes avaient la même propension à mimer les visiteurs, à imiter les visiteurs que les visiteurs.
À singer les visiteurs.
À singer les humains, en gros. De la même façon que les humains, quand ils sont devant une cage à singes, se mettent à faire les singes.
Voilà. Donc des ignobles, des prix Nobel, des IG Nobel, ça vaut le coup. Le palmarès de ces recherches improbables qui font d'abord rire, c'est le slogan, puis réfléchir ensuite, est à retrouver bien sûr sur le site des IG Nobel. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, on part tout de suite avec vous, Carole Châtelain, dans Science et Avenir, sur les traces des particules élémentaires, peut-être les plus mystérieuses de l'univers, impossible à piéger et pourtant.
Et beaucoup de neutrinos sont tout autour de nous.
Pour vous donner un exemple, actuellement, nous sommes traversés tout le temps par 60 milliards de neutrinos par centimètre carré et par seconde.
Les neutrinos, Carole Châtelet, on est tout le temps traversés par ces mystérieuses particules, mais on n'arrive absolument pas à les attraper.
Oui, ce sont ce qu'on appelle des particules subatomiques, c'est-à-dire qu'elles sont 10 milliards de milliards de fois plus petites qu'un grain de sable. Elles sont beaucoup plus petites qu'un atome. Et effectivement, on est dans un bain de neutrinos, mais elles ont une particularité, ces particules, c'est qu'elles n'interagissent pas avec la matière, c'est-à-dire que elles peuvent traverser toute la matière sans, en gros, sans rencontrer d'obstacles. Donc, c'est ce qui les rend si difficiles à détecter.
Et pourquoi est-ce qu'elles intéressent tant les physiciens, les astrophysiciens, les spécialistes des particules? Pourquoi est-ce qu'on les traque à ce point-là?
Alors, on les traque parce qu'en fait, elles ont beaucoup, beaucoup de choses à nous dire, et notamment sur une partie de notre histoire qui est totalement fantasmatique, qui est le Big Bang, le début de notre univers, puisqu'elles étaient là une seconde après le Big Bang, alors que les messagers dont nous nous servons actuellement pour comprendre ce qui s'est passé dans l'univers au moment de sa création sont les photons, les particules de la lumière, mais les particules de la lumière ne sont apparues que lorsque l'univers avait environ 380 000 ans. Autrement dit, les neutrinos étaient là avant. Et ils ont donc plein de choses à nous raconter, à condition qu'on arrive à les attraper. Et ils sont très facétieux. Donc
c'est très compliqué de les traquer. On peut les traquer sous terre. Il y a plein de manières différentes de les traquer. Il y a une concurrence mondiale aujourd'hui pour leur détection, en fait.
Alors, il y a une concurrence mondiale pour leur détection dans deux domaines. D'abord, dans ce qu'on appelle la métrologie, c'est-à-dire la mesure. Parce qu'en fait, comme je le disais, ces neutrinos, ils ont une particularité. Ils oscillent dans différents états. Et on a découvert en 1998, contrairement à ce qu'on pensait, et contrairement à ce qui figure toujours dans la physique standard, ils ont une masse. Et partant de là, ça peut tout bousculer si on arrive vraiment à savoir quelle est cette masse. Pour l'instant, on n'y arrive pas parce qu'ils changent d'état. C'est très compliqué.
C'est compliqué, c'est le truc qui nous traverse en ce moment pendant que nous parlons.
Exactement. Il y a deux sortes de choses. Il faut découvrir vraiment, il faut qualifier cette masse parce que le neutrino, il peut prendre trois, on appelle ça des saveurs, c'est-à-dire il peut être dans trois états différents qui ont des masses différentes. Donc il faut arriver à savoir, à connaître la masse de chacun de chacune de ces saveurs. C'est ce qui se fait notamment, nous en parlons dans notre numéro de Science et Avenir en Chine, qui construit l'un des énormes détecteurs de neutrinos qui s'appelle Juno, puisqu'il y a une grande course internationale pour essayer de faire donc ce qu'on appelle la métrologie, la mesure, calculer cette fameuse masse du neutrino.
C'est qu'en fait, il faut des instruments, des réacteurs de plus en plus énormes pour arriver à piéger, à traquer ces particules infimes.
Comme ils traversent la matière sans laisser d'adresse, si je puis dire, il faut des amplificateurs pour signaler son passage. Donc, ce sont des énormes machines qui vont signaler l'arrivée d'un neutrino. Et puis, il y a les fameux neutrinos. Alors, ce ne sont pas les mêmes, les neutrinos de basse énergie qui arrivent du fin fond de notre histoire, donc du Big Bang. Et là, ce sont d'autres appareils qui tentent d'en détecter le passage sur Terre.
Donc, dans cette concurrence mondiale pour arriver à détecter, à attraper, à piéger les neutrinos, ce sont les Chinois avec Juno, comme vous le montrez dans cet article, qui sont vraiment, en ce moment, les premiers dans la course?
Alors, ils ne sont pas les premiers dans la course. Ils rejoignent la course internationale. Ils construisent un détecteur énorme, mais qui a les mêmes missions que d'autres détecteurs qui existent déjà dans le monde, notamment aux États-Unis. Tout le monde s'y met, si je puis dire. Parce que pourquoi c'est si important de connaître tout ça? C'est que ça peut nous apporter des réponses sur l'antimatière. C'est-à-dire qu'au moment de la création de l'univers, il y avait la matière et puis il y avait l'antimatière. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue, l'antimatière. Et peut-être que les neutrinos ont l'explication. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si on arrive bien à les repérer, à les faire parler, ils nous diront peut-être ce qui est devenu cette antimatière.
Comment piéger les neutrinos, dossiers sur les plus mystérieuses particules de l'univers, à lire dans Science et Avenir de ce mois d'octobre, dont nous avons amis auditeurs quelques exemplaires à vous faire gagner. Si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, histoire d'en savoir plus sur toutes ces particules élémentaires, on écoute Florent Marchais sur RFI.
Oh mon cosmos, ma galaxie, antimatière et longue nuit. Oh mes étoiles, ma voie lactée et mon soleil, rayon dardé. Oh mes comètes, tous mes nuages et ma planète prise en otage. Mes océans, au bleu cobalt, mes continents, mes îles de Malte. Écran capture, oh mon pays, ma préfecture, mon monoprix. Oh ma rue étincelle à l'horizon. Oh mon amour et mes amis, oh mes enfants, ma chair, mon sang, oh mon cerveau et mes poumons, mes litres d'eau, oui mon côlon, mes reins, mon foie, mes testicules, mon estomac, oh mes cellules, mon ADN, mes molécules, oh mes atomes, mes particules, mes électrons, oh mes neutrons, protons et quartz à l'horizon, enfin mes cordes où que je sois, la vie déborde à chaque fois, la vie déborde à chaque fois.
Sur RFI, Florent Marchais, autour de la question comment la science infuse et se diffuse. On s'arrête maintenant sur la plus grande inconnue de l'univers, carrément.
Les simulations révèlent qu'une matière cachée sculpte notre univers depuis des milliards d'années. Mais y a-t-il un moyen de prouver que c'est bien ce qui s'est passé dans la réalité ?
Si on ne voit pas cette matière noire et qu'on ne sait pas de quoi elle est faite, est-on vraiment certain, au moins, qu'elle existe ?
L'enjeu est énorme parce qu'il s'agit de dire de quoi est constitué l'univers. On ne peut pas rester pendant des décennies avec une physique qui ne sait décrire qu'une toute petite partie du contenu matériel de l'univers.
Que faire avec, ou plutôt sans, cette fameuse matière noire, cet ingrédient caché dans la recette de l'univers, sur lequel butent toujours physiciens, cosmologistes et astrophysiciens, on entendait Étienne Klein à l'instant. La matière noire, grande absente de l'univers, c'est le dossier de la recherche, Philippe Pajot.
Oui, on est en crise, une crise grave qui dure, et on a un peu de mal à en sortir. Alors, tout à l'heure, Carole parlait des neutrinos. Autant les neutrinos, même s'ils sont difficiles à attraper,
on sait qu'ils existent.
On connaît pas bien leurs caractéristiques, mais on en connaît certaines. On les attrape quand même. Et là, il s'agit de quelque chose qu'on n'attrape pas du tout. Alors on dit, si on l'attrape pas, peut-être qu'il y en a pas. Mais alors en fait, le problème, c'est qu'on a pas mal d'indices qui laisseraient penser qu'il y en a. Ça fait longtemps qu'on a ces indices.
Enfin, on a des indices qu'en tout cas, il y a une partie de la matière. Enfin, l'immense partie de la matière de l'univers, on ne sait pas ce que
voilà,
c'est.
Voilà. Alors, c'est quoi ces indices? C'est d'une part, dans les galaxies, on mesure les vitesses de rotation des étoiles et du gaz dans les galaxies. Et si on croit les lois de gravitation, ça c'est un point important, si on y croit, eh ben, il devrait y avoir, il y a de la matière qui est manquante, qu'on ne voit pas, qui devrait être là, parce que les lois de gravitation sont ce qu'elles sont. Alors ça se vérifie à l'échelle des galaxies, ça se vérifie à l'échelle des amas de galaxies, et puis même quand on fait la cosmologie, même quand on regarde les traces du Big Bang, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui a été mesuré avec quand même assez grande précision par le satellite Planck il y a quelques années, eh bien on voit que la matière, il manque de la matière pour créer, pour que l'univers évolue vers l'univers qu'on connaît aujourd'hui.
Donc tous les indices montrent qu'il y aurait de la matière noire, si vous l'avez dit. On suit la loi de la gravitation.
Première manière de penser, il manque de la matière, donc on la cherche. On la cherche éventuellement sous forme de neutrinos. Il pourrait y avoir des neutrinos qu'on ne connaît pas, qu'on appelle les neutrinos stériles, et qui pourraient former cette matière. On a des indices sur la caractéristique de cette matière. C'est une matière qui n'est pas lumineuse, qui interagit peu avec le reste de la matière, sinon on verrait les effets. Et donc on a un peu, comme les neutrinos, des espèces de grands détecteurs qui sont protégés des rayons du rayonnement cosmique, de la radioactivité, qui sont sous la Terre, et qui essayent de voir le passage d'une particule supposée de matière noire, hein, ce qu'on appelle une particule faiblement interagissante, une WIMP en anglais. Alors, contrairement aux neutrinos, où là on a des détections, là on n'a rien vu du tout. Et ça fait.
On cherche les whips, mais on ne sait pas où ils sont.
Ça fait quand même 30 ans qu'on cherche.
On n'est pas dans la science improbable, là. Hein,
ah non, on est vraiment. On cherche. On a des neutrinos avec une tonne de liquide scintillant qui est dans lequel on essaye de détecter ces particules et rien du tout. On fait des expériences de plus en plus grosses et toujours rien. Et ça fait quand même longtemps que ça dure. Quand même, ça fait assez longtemps que Philippe et moi, on traite ces questions-là. Et à chaque fois, les chercheurs nous, le papier que je faisais il y a 15 ans, ils ont dit, dans 3 ans, c'est bon, on aura trouvé les WIMP. Pas de souci, vous inquiétez pas.
Et toujours pas.
Alors, du coup, on se pose la question, peut-être que ces particules n'existent pas. Et c'est donc,
peut-être qu'il y a une erreur dans la théorie, du coup.
Alors, c'est effectivement, à ce moment-là, c'est une sorte de solution législative. C'est la loi qui n'est pas bonne. Et, à ce moment-là, on dit, bah voilà, peut-être que la loi n'est pas bonne, mais sauf que la gravitation, c'est un truc qui marche quand même très bien, en tout cas à notre échelle, et donc il faut mettre en place des mécanismes qui permettraient d'expliquer ça. Il y a un physicien israélien qui s'appelle Mordechai Milgrom, qui dans les années 80 a proposé une théorie de gravitation modifiée, en fait, qui justement permet d'expliquer ce qu'on observe, en fait, sans matière noire du tout.
Alors, ce qui voudrait dire que cette quête de matière noire, finalement, elle n'apporte aucun résultat, mais elle pourrait être vaine.
Voilà, alors ce serait très très beau, mais simplement, cette théorie de gravité modifiée, elle fonctionne bien pour les galaxies, mais elle fonctionne mal à l'échelle cosmologique, où là, on doit quand même invoquer l'existence de matière noire. Et à l'inverse, cette hypothèse de particules, quelle qu'elle soit, elle marche bien à l'échelle des galaxies, mais elle est introuvable. Et voilà, elle ne marche pas très bien à l'échelle des galaxies, mais elle est introuvable, mais elle marche bien à l'échelle de l'univers.
D'où la crise astronomique dont vous parliez, et dont parle aussi la cosmologiste Françoise Combe, que vous avez interrogée dans son numéro de la recherche.
Justement, on a fait un entretien avec Françoise Combe qui nous raconte un petit peu, qui fait un petit point là-dessus. On a également un chercheur qui travaille sur ces grosses expériences qui ont des grosses cuves de xénon qui essayent de détecter ça. Et alors, c'est marrant parce que vraiment, il y a différentes écoles. Il y a ceux qui disent on continue à chercher, on va trouver. Effectivement, il y a tellement d'indices concordants que ça doit marcher. Et puis, il y a des indices en physique des particules, enfin, il y a plein de choses. Et puis, il y a ceux qui disent finalement, il faudrait peut-être aller voir ailleurs. Nos confrères de Sansevi ont fait aussi quelques pages sur les particules possibles ce mois-ci. De matière noire sur les WIMPs.
Bon, ça reste un grand mystère, un grand point d'interrogation.
Alors, il y a plusieurs petits espoirs, mais il y en a un, notamment avec un satellite qui s'appelle Gaïa, qui a été lancé, un satellite astrométrique qui mesure très précisément les positions, les vitesses des étoiles dans notre galaxie. Et grâce à ça, on pourra peut-être mieux connaître effectivement la manière dont notre galaxie, les étoiles se tournent dans les galaxies et peut-être améliorer un petit peu ces prévisions et savoir si elles existent ou pas. Et peut-être qu'un jour, on finira par découvrir les WIMPs.
Découvrir les WIMPs, ça serait le Graal, la matière noire, la grande inconnue, la grande absente de l'univers. Dossier complet à lire dans la recherche de ce mois d'octobre. Nous avons bien sûr quelques exemplaires à vous faire gagner, amis auditeurs, à l'écoute des Daft Punk sur RFI, Something About Us.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Secret I will share with you. I need you.
Something About Us, les Daft Punk sur RFI, autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque dans l'espace. Décollage prévu le 19 octobre prochain à Kourou, en Guyane, destination Mercure, pour la sonde européenne.
Elle s'appelle Bepi Colombo et cette fois elle fait route vers Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Objectif, étudier cette planète de l'intérieur.
Alors, Mercure, vous voyez la Lune ? Eh ben Mercure, c'est exactement pareil en plus gros. Allez, salut !
Bon alors, pourquoi y aller finalement sur Mercure ? Philippe Hénarejos, dans Ciel et Espace, vous demandez précisément hein, pourquoi l'Europe part explorer une planète aussi inhospitalière ?
Justement, parce que ça ressemble à la Lune, mais c'est pas la Lune. C'est différent. C'est une planète qui pose pas mal de problèmes théoriques aux planétologues, les astronomes qui étudient les planètes, mais aussi leur histoire et leur formation. Par exemple, on sait que Mercure est une planète très dense en général, mais il y a une première sonde qui est restée en orbite pendant plusieurs années, qui était une sonde américaine qui s'appelait Messenger, et on s'est aperçu avec les études qui ont été réalisées que la surface de Mercure est très pauvre en fer, ce qui ne correspond pas à ce qu'on attend d'une planète tellurique par rapport à la Terre ou à Vénus. Et donc, vu sa position près du Soleil et vu sa densité supérieure, elle a un cœur de fer énorme par contre, Mercure. C'est une planète qui est un peu atypique. Donc il y a intérêt à aller voir cette planète, à l'étudier mieux.
Alors, essayer pourquoi... de comprendre pourquoi elle est aussi atypique. Voilà. Ça, c'est l'enfer hein, quand même un peu, Mercure.
Oui, c'est l'enfer parce qu'il y a un problème, c'est que le Soleil est très proche, 57 millions de kilomètres. Nous, pour fixer les choses, on est à 150 millions de kilomètres. Déjà, quand il fait...
Quand ça tape, ça tape.
Mais là-bas, ça tape tout le temps. La question qu'on s'est posée aussi, c'est pourquoi y aller maintenant ? Pourquoi l'Europe envoie... L'Europe avec une... Il y a un petit module japonais aussi qui est embarqué à bord. Pourquoi l'Europe va voir cette planète alors que précisément, pendant plusieurs années, il y a moins de 10 ans, il y a une sonde américaine qui a cartographié en entier Mercure, qui a découvert des choses mystérieuses à la surface, etc.
Donc il y aurait peut-être assez de données qu'on pourrait étudier depuis la Terre.
Ce que le public ne peut pas percevoir, c'est que la sonde Messenger américaine a été faite avec un petit peu au rabais. Il y avait une enveloppe budgétaire qui était faible pour une sonde scientifique, donc des instruments qui étaient limités, y compris en cartographie. Donc l'ensemble de la planète a été cartographié, mais à une certaine résolution. Là, Bepi Colombo, c'est vraiment la grosse sonde avec des instruments coûteux, donc précis. On va pouvoir faire de la minéralogie à distance. L'orbiteur va pouvoir vraiment étudier la composition du sol. Il va pouvoir, par exemple, on espère que dans des cratères qui sont toujours à l'ombre au pôle nord et au pôle sud, on suppose qu'il y a de la glace. Cette glace pourrait...
Aussi près du Soleil,
oui,
il peut y avoir de la glace.
Que Mercure est à la fois la planète la plus chaude et la plus froide. Quand vous êtes à l'ombre, c'est l'endroit où il fait le plus froid du système solaire. Et quand vous êtes au Soleil, c'est l'endroit où il fait le plus chaud. Donc, cette glace, elle est difficile à observer parce qu'elle est perpétuellement à l'ombre. Messenger a trouvé des indices... Mais ce n'est pas suffisant. Là, peut-être on pourra avoir un spectre et savoir si c'est vraiment de la glace d'eau ou pas. Donc il y a tout un tas d'expériences comme ça. Il y a, par exemple, la sonde Messenger a découvert des étranges dépressions, un peu comme si dans le fond de certains cratères, comme si c'était rongé. Le sol a l'air neuf à l'échelle géologique, ça a l'air récent, comme si ça avait été chahuté. Alors, les astronomes pensent qu'il peut s'agir d'émanations volcaniques, ou en tout cas de volcanisme résiduel, pour faire simple. Mais, encore une fois, les instruments de Messenger ne pouvaient pas voir la composition.
À cette résolution-là.
Voilà, et la composition, surtout, de ce sol-là. Or, Bepi Colombo va pouvoir le faire, et en plus... Il va pouvoir renifler la très très fine atmosphère de Mercure.
Renifler.
Oui, il y a une Mercure, ça ressemble à la Lune, on est comme ça en apparence, donc il n'y a pas d'atmosphère. Mais en fait, si on mesure, il y a quand même quelques particules qui sont issues du vent solaire, qui interagissent avec le sol, etc. Et donc, il va y avoir un instrument qui va être capable de capter ces quelques particules et de les analyser. Et donc, si par hasard, ces dépressions bizarres qu'on voit au sol continue à émettre des gaz, si l'hypothèse est bonne, on va voir dans cette atmosphère, épisodiquement, ces gaz, ces résidus, peut-être du soufre, peut-être des choses comme ça, et on sera capable de mieux comprendre cette planète. Donc c'est très intéressant de comprendre Mercure, et aussi il y a un autre aspect de la mission qui est les exoplanètes. La plupart, beaucoup d'exoplanètes qu'on découvre autour d'autres étoiles que le Soleil sont très proches de leur étoile. Et donc Mercure, c'est celle qui, dans le système solaire, s'est formée le plus près du Soleil. Donc on va...
Donc étudier Mercure étudier permet Mercure. D'avoir une idée d'autres voilà. des exoplanètes ailleurs.
On va peut-être pouvoir projeter... sur ces autres systèmes, le mode de formation de Mercure, quand on en saura un peu plus sur cette planète.
Donc 19 octobre prochain, décollage dans la fusée de BepiColombo, la sonde vers Mercure, et les résultats attendus.
Alors, il va falloir être patient, parce que la croisière va durer 7 ans, on ne sera pas autour de Mercure avant 2025, et il y a un côté un peu frustrant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modules qui sont assemblés les uns après les autres. Entre-temps, la sonde va survoler 6 fois Mercure, mais à ce moment-là, du fait que les modules sont collés les uns aux autres, les caméras ne seront pas actives. Donc on va survoler 6 fois Mercure en aveugle. On n'aura pas un petit aperçu comme ça pour patienter. Il va falloir attendre début 2025 pour vraiment avoir des images, des données sur cette planète.
Sur Mercure, en tout cas pour comprendre, il faut être patient, on a bien compris, et pour comprendre pourquoi l'Europe part explorer Mercure, pour tout savoir sur aussi les déboires de la sonde BepiColombo qui va donc être lancée le 19 octobre prochain, c'est à lire dans Ciel et Espace de ce mois d'octobre-novembre dont nous avons un numéro à vous faire gagner, je vous le rappelle, amis auditeurs, et c'est pas tout, avant la fête de la science la semaine prochaine, nous avons aussi le plaisir de vous faire gagner toute cette semaine un petit livre, 25 vraies et fausses idées en science, petit ouvrage édité pour l'occasion par les éditeurs de science, qu'on se le dise. Et puisqu'on est dans les cadeaux et les numéros spéciaux, Carole Châtelain, avant de vous laisser filer, un petit mot peut-être sur le hors-série de Science et Avenir consacré à l'intelligence de nos animaux domestiques. C'est titré « Chat, chien, qui est le plus malin ?» On va pas donner la réponse, mais par rapport à l'intelligence de nos animaux domestiques qui serait dans le palmarès.
Oui, on réserve la réponse sur les chats et les chiens, hein, ça déchire les familles et les chercheurs d'ailleurs aussi. Nous avons décidé de nous intéresser aux animaux domestiques parce que paradoxalement, les recherches ne sont pas très fournies. Il y en a beaucoup sur les animaux sauvages. On observe beaucoup les singes, toutes sortes d'animaux, mais nos animaux proches, notamment les vaches, les cochons, les poules, font moins l'objet de recherche. Donc c'est pourquoi nous avons ici décidé de nous y intéresser avec énormément de surprises.
Par exemple, alors il y a les vaches qui ont de la mémoire.
Alors, par exemple, les phages ont énormément de mémoire, elles se connaissent, elles reconnaissent les humains, elles se reconnaissent entre elles, elles ont toutes leurs caractères. Et les poules aussi, savent qu'elles ne savent pas. Elles ont cette capacité, par des expériences
sont philosophes.
Elles sont philosophes, c'est-à-dire qu'elles peuvent avouer leur échec. Et clairement, quand on leur pose un problème qu'elles n'arrivent pas à résoudre, clairement, elles montrent, par tout un tas de procédés que l'on explique dans le hors-série, qu'elles ne le savent pas, et donc elles font une option différente, elles font un choix différent.
Alors vous avez les abeilles surdouées des mathématiques, hein, avec la danse des abeilles, mais il y a aussi le cochon. C'est quoi sa qualité au cochon?
Alors le cochon, lui, il est extrêmement malin, ça, on le savait, il est capable de duperie, il est capable de tromper ses congénères par tout un tas de stratagèmes. C'est un cochon. Et il est capable aussi de réussir ce qu'on appelle le test du miroir, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas avoir par les reflets. C'est très bien que c'est un reflet. Et surtout, j'ai eu le plaisir de rencontrer une chercheuse du Muséum d'Histoire Naturelle.
C'est un cochon, excusez-moi.
Non, oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Elle s'appelle Emmanuelle Puy-de-Bas et elle est au Muséum et elle travaille également au CNRS. Et elle donne, sa définition de ce qu'est l'intelligence, parce que tout part de là. L'intelligence, nous la mesurons à hauteur d'humain. Or, c'est notre intelligence donc, qui sert d'étalon. Donc, à partir de là, c'est faussé. Et pour elle, l'intelligence, c'est l'adaptation. Il y a des fourmis du désert qui se repèrent d'une façon exceptionnelle dans le désert, là où nous mourions de faim ou de soif. Au bout de 3 jours, on serait complètement perdus. Donc, il faut vraiment savoir de quoi l'on parle quand on parle d'intelligence animale.
Alors, pour savoir de quoi on parle, l'intelligence animale est en question dans ce hors-série de Science et Avenir. Merci, Carole Châtelain. Je vous laisser filer, je vais vous dédicacer ce superbe morceau à suivre, ça s'appelle Wolves Don't Live by the Rule, c'est signé Elisa Paille, nouvelle voix venue du Grand Nord Arctique qui nous embarque.
Don't live by the rules. Wolves
Wolves, Don't Live by the Rules, extrait de l'album envoûtant d'Elisa Paye sur RFI, autour de la question comment la science infuse et se diffuse.
Liberté, égalité, préjugés. Pour la génétique, les races humaines n'existent pas. Pour la loi, tous les hommes sont égaux.
Voilà qui a été dit et bien dit dans l'exposition « Nous et les autres », c'est au Musée de l'Homme à Paris. Sauf que scientifiquement, c'est plus complexe, ce mot « race » qui va être supprimé dans la Constitution française. La science peut-elle s'en passer? Vous osez vous poser la question dans « Science et vie », Caroline Tourbe, sous la plume d'Yves Siama, qui a mené l'enquête, forcément dérangeante, embarrassante, qui risque aussi tout de même de réveiller de vieux démons.
Bien sûr, oui, c'est une question qui n'est pas facile de se poser. Et Yves Siama, en effet, qui a mené l'enquête pour Science et Vie, explique bien que pour lui c'était compliqué aussi, c'est-à-dire qu'on part avec une idée précise du mot race et de ce que ça peut véhiculer historiquement d'inégalité, de hiérarchisation entre les humains et la volonté justement de voir ce mot disparaître de la Constitution française. C'est ce que vous évoquiez, le 12 juillet dernier il y a eu un vote à l'Assemblée nationale pour faire disparaître de l'article 1er le mot race, si je reprends cette phrase qui dit que la France assure l'égalité devant les droits de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion, voilà, le mot race disparaît. Donc c'est partant de ce vote qu'on s'est posé la question de savoir si c'était aussi valable en science et en recherche, sur les recherches scientifiques, l'homogénéité génétique des humains.
C'est parce que le souci se pose quand on parle de race humaine. Il est évident quand on parlait des chiens ou des chats et qu'on parle de race, à ce moment-là, c'est pas un souci. Mais quand on parle de race humaine, ça véhicule certaines choses et on a quand même l'impression, d'abord, il y a une espèce humaine aujourd'hui sur Terre, c'est Homo sapiens.
Homo sapiens.
Et ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Non. Donc c'est pas ça qu'on remet en question. Mais comment quoi? Comment dire à l'intérieur
en fait,
les différences?
Il y a un questionnement sur le mot. Et ce qu'il véhicule en effet historiquement, politiquement, philosophiquement, de concepts qui sont rejetés par la société actuelle. Et puis il y a ce que le mot race peut aussi vouloir dire en termes de variation et de différence génétique entre populations humaines.
Parce qu'il y a des variations évidemment et de la
alors,
diversité
voilà,
dans la population
humaine. C'est là qu'on arrive à un questionnement qui pour les scientifiques est complexe, parce qu'en effet ils savent bien que c'est un mot horriblement piégeux, le mot race. Donc eux vont en fait étudier, et c'est au tournant des années 2000, quand on a réussi à achever la transcription du génome humain, on arrive là à un moment de consensus qui dit qu'il n'y a pas de différence génétique entre les humains. Et en fait, depuis les années 2000, depuis qu'on a ces outils génétiques, on s'aperçoit qu'il existe des différences, des variations génétiques qui sont parfois
qui en tout cas sont utiles à connaître pour soigner des maladies,
exactement,
pour les dépister, enfin
qui peuvent déboucher sur des connaissances importantes. En médecine, par exemple, dans la recherche clinique, ça peut être intéressant de distinguer des groupes de populations. Et là, vous voyez que je n'utilise pas le mot race parce que ce sont des groupes de populations. Il y a des différences de réaction à certains médicaments, notamment à des anticancéreux, en fonction des origines d'une personne, des origines de cette personne.
Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, au fond, remplacer
le
mot race par un autre qui serait quoi? Vous avez parlé de population.
Les mots qui sont actuellement utilisés dans les pays anglo-saxons, le mot race, quand on fait des recherches sur les publications scientifiques, le mot race apparaît. Ils l'utilisent. Eux, ils n'ont pas l'interdit de ce mot-là, comme on peut l'avoir sur le vieux continent, où évidemment la Seconde Guerre mondiale a définitivement remisé ce mot du côté de ce qu'il représente. Donc encore une fois, des inégalités, une hiérarchisation.
C'est ça en fait le problème, c'est la hiérarchisation. Mais quand on entend race, on a l'impression qu'on a des supérieurs et des inférieurs,
voilà,
c'est absolument pas
juge.
Ça le propos.
Non, c'est pas ça le propos. C'est pour ça qu'en fait, il y a quand même en Europe des recherches sur les variations génétiques, mais on va utiliser des mots mots sur origine, ethnie, ascendance, des mots qui donc sont moins piégeux, mais qui en fait disent quand même qu'il peut exister des différences, et comme vous le soulignez, qui peuvent être des différences intéressantes à étudier pour arriver soit à une meilleure médecine, soit de toute façon à une meilleure connaissance de l'espèce humaine, puisque vous l'avez dit aussi fort justement, il n'y a qu'une seule espèce humaine, ça c'est Homo sapiens, ça il n'y a pas de recherche qui vienne dire autre chose que ça.
Mais qu'il est important on est tous divers, donc on est tous pareils et tous différents, mais ça se regroupe aussi par population, par origine.
Si vous voulez, il y a un moment où dans la science on a pensé que donc il y avait une égalité génétique parfaite dans toute l'espèce humaine, que le brassage constant des humains aurait empêché la formation d'identités génétiques locales fortes. C'est ce sur quoi les recherches récentes reviennent. Avec donc immédiatement je reviens aussi sur ce problème de difficulté pour les scientifiques de faire ces travaux-là. Eux considèrent qu'ils sont confrontés en effet à quelque chose qui peut être un piège pour eux, la peur d'être récupéré, la peur d'avoir des travaux qui seraient utilisés. Or, on est quand même dans deux univers très différents, c'est-à-dire que quand on parle de tout ce qui a à voir avec l'égalité, on est sur un débat philosophique, un débat de civilisation, un débat culturel.
De toute façon, le fait de faire disparaître le mot race dans la constitution française ne va pas faire disparaître le racisme, hein. On est quand même dans deux domaines différents.
Et puis voilà, il n'y a pas besoin de convoquer la science. Je veux dire, si après 10 000 ans d'évolution, l'espèce humaine décide que les membres de l'espèce humaine doivent être traités avec égalité, c'est pas la science qui doit le dire. Ça c'est
moral et éthique.
C'est moral, éthique, philosophique, culturel, encore une fois. La science, elle peut être convoquée quand on va étudier la diversité. Voilà, sans avoir besoin d'être instrumentalisé ni d'un côté ni de l'autre. Donc il y a des recherches qui sont faites sur les différences, les variations, qui peuvent être des recherches qui sont extrêmement intéressantes.
Voilà. La science peut-elle se passer du mot race ? Il faut peut-être plutôt en trouver un autre. La question est ouverte pour le meilleur et pas pour le pire. Dans Science et Vie de ce mois d'octobre, dont il nous reste quelques exemplaires à vous faire gagner, amis auditeurs, sur RFI, la caravane passe et s'arrête sur Zinzin Moreto.
Tu as quitté ton chez-toi, fuyant la guerre ou la famine. Tu cherchais une terre d'accueil, mais partout on t'appelle l'étranger. Je comprends ton fardeau, je portais le même, mais j'ai changé de peau. J'ai pris la caravane et je suis devenu un Zinzin Moreto. Traité de Youpin, de Rouquin, de Bico, de Métec, de Benoît, d'Espingouin, de Négro, de Pac-Pac, de Polac, de Hugo, de Guéchniac ou Citron, de Melon, de Gringo, d'Esquimo, Romano. Mais aujourd'hui, tu vas les prendre au mot, devenir un vrai désespérado. On va te baptiser du plus beau nom d'oiseau. Bienvenue chez les Zinzin Moreto.
Zinzin Moreto.
Chang, Rital, Rosbif, Schleu, les Boucaques, les Wetbacks, les Blédards, les Bouzeux, les Blanche-Neige, Bronzés, Pédales, les Mouakas, les Froggies, les Halouf, les Pecnos, Bamboula. Si tu n'es pas à ta place, prends donc la première caravane qui passe à l'ouest, rien de nouveau. Change ton western en eastern à la Zinzin Moreto.
Zinzin Moreto,
King of the Choro. Tu fais partie du clan, de la famille. La terre peut trembler, tu restes de glace. Les chiens aboient et la caravane passe. La barbe du chameau n'atteint pas le noir corbeau. Quand tu marches dans la rue, les gens te saluent. Ils lèvent leur chapeau, car le monde entier respecte ton nouveau pseudo.
Zinzin Moreto,
King of the Joe.
La caravane passe sur RFI avec Zinzine Moretto, tout ce qu'on aime autour de la question comment la science infuse et comment les collaborations internationales se nouent dans l'espace. Vous vous intéressez, Philippe Hénarejos, dans Ciel et Espace, à l'agence spatiale japonaise qui s'ouvre au monde.
Et oui, alors on parle beaucoup de l'agence spatiale japonaise, la JAXA, aujourd'hui, parce qu'il y a sa sonde Hayabusa 2 qui est en train de tourner autour du petit astéroïde Ryugu et qui a déjà déposé deux petits robots.
Dont mascotte, petit robot.
Et un troisième, le mascotte dont on attend les images et les données.
Petit robot français, rappelez-le.
Voilà, franco-allemand, en fait.
Franco-allemand, allez, excusez-moi.
Mais justement, par rapport à Hayabusa 1, eh bien, il y a ce changement, il y a un instrument, un module qui n'est pas japonais à bord. Et en fait, ça tombe bien qu'on ait fait cette enquête-là. Notre reporter est allé au Japon, il a interviewé pas mal de chercheurs européens et japonais qui ont appris cette collaboration parce que dans Hayabusa 1, le Japon faisait tout seul. C'était la philosophie de l'agence spatiale japonaise, pour faire simple. On se débrouille tout seul, on va tout faire nous-mêmes et on va y arriver. Et il y a eu quand même beaucoup d'échecs ou de semi-échecs dans le programme spatial scientifique japonais comme ça. Alors on apprend de ces échecs, mais on apprend aussi beaucoup de la collaboration.
Donc les Japonais ont décidé de collaborer
de
et s'ouvrir au monde.
Et il y a eu un changement culturel dans la manière de travailler. Les chercheurs français le racontent. Au début, ils avaient du mal à partager leurs données. Ils leur envoyaient les documents en japonais. C'est dire, c'était pour pas qu'ils les lisent. Mais tout ça a beaucoup évolué. Et c'est arrivé avec Hayabusa 2. C'est vraiment la démonstration de cette évolution, de cette culture scientifique japonaise qui s'ouvre bien au monde et qui collabore très très bien avec l'agence spatiale française, le CNES. Ce sont des collaborateurs, des partenaires plutôt privilégiés.
Dans l'espace, avec les Japonais. Ça, c'est à lire dans Ciel et Espace. Autre sujet, alors là, carrément aux limites. Comment aujourd'hui les scientifiques belges étudient les expériences de mort imminente? Vous avez enquêté sur le sujet dans la recherche, Philippe Pajot.
Oui, notre journaliste Philippe Lambert, qui est basé en Belgique, est allé voir à l'Université de Liège l'équipe de Stephen Lawrence.
Que nous avions reçu ici, qui travaille sur les comas profonds et sur les expériences de mort imminente.
Sur les comas, justement, pour savoir comment donner du sens au récit de mort imminente. Donc, vous savez, c'est ces gens qui ont des arrêts cardiaques, qui ensuite se réveillent et racontent avoir vu une lumière, rencontrer des êtres surnaturels, être sortis de leur corps, etc. Et donc, parmi les choses que fait cette équipe, c'est qu'ils étudient effectivement les milliers de récits qui existent. Ils ont une base de données de récits qu'ils ont recueillis eux ou qu'ils ont récupérés. Et une des choses qu'ils ont faites, ils ont essayé de voir s'il y avait une chronologie. Est-ce que c'était toujours les mêmes sortes de récits, le même ordre d'apparition? En fait, pas du tout. Les ordres peuvent être très, très, très différents.
Il y a les mêmes éléments, mais pas dans le même
ordre. Pas toujours les mêmes éléments. Il y a des composantes principales, mais on peut jamais raconter. Il y a pas d'histoire qui se répète, d'une part. Donc, des récits très diversifiés. Et parfois avec des sensations négatives. Et donc, des choses très, qui font dire que c'est très diversifié. Et du coup, on essaie d'analyser maintenant les causes neurologiques, mais c'est extrêmement difficile.
Donc, de ces expériences de mort imminente. Pour en savoir plus, c'est à lire dans la recherche. On va terminer sur la une de Science et Avenir, Caroline Tourbe.
Science et Vie.
Caroline. Oui, d'une Caroline à l'autre. Science et Vie, changer le climat, les scientifiques s'y préparent. Vous nous reparlez de refroidir la Terre.
Refroidir la Terre, on en reparle parce que l'actualité sur la lutte contre le réchauffement climatique et les mesures qui devaient être prises après le sommet de Paris, eh bien, on a l'impression que les choses ne se font pas au rythme où il faudrait. Donc il y a deux grands projets qui sont, d'un point de vue théorique et modélisation, validés par la science. Après, leur mise en application, c'est autre chose, mais qui pourraient permettre urgemment, si jamais les choses continuent à aller à ce rythme-là, permettre d'éviter que ça se réchauffe trop fort. Il y a par exemple l'idée de sulfuriser l'air pour bloquer les rayons du soleil. Ça a l'air farfelu comme ça, mais en fait, quand vous lisez les papiers du dossier qui a été écrit par Vincent Noriega, vous verrez que c'est très sérieux.
Il y aurait moyen de s'en sortir.
Alcaliniser les océans pour engloutir le CO2. Voilà, des travaux sérieux envisagés maintenant parce que l'urgence se fait de plus en plus précise.
Rappelons-le, merci infiniment Caroline Tourbe, Philippe Hénarejos, Philippe Pajot. On se retrouve le mois prochain autour de vos magazines respectifs, Science et Vie, La Recherche, Ciel et Espace et Science et Avenir, magazine dont nous avons encore quelques exemplaires à vous faire gagner. Amis auditeurs, elles sont pour vous si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. À bon entendeur.
Pour nous contacter, autour de la question, @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Merci de votre fidélité et de votre curiosité. Amis auditeurs, nous vous donnons rendez-vous lundi avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette et Sophia Bédard en coulisses pour de nouvelles interrogations à partager ensemble en toute liberté sur RFI. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et à notre écoute, à l'écoute de nos bonnes ondes. Le prochain journal, c'est dans un peu plus d'une minute. We'll be right back.